Merci. Ben, c'est la dernière séance. Bon, donc c'est pas toujours facile, mais on va essayer quand même de la rendre aussi vivante que possible. Donc, je vais essayer de faire une présentation pas trop longue d'un papier qu'on a préparé avec Mihaela Similier, qui est présente là aussi, mais qui va essayer en utilisant un rapide PowerPoint. Mais des fois, c'est utile d'avoir quelques mots, quelques thèmes sur.
Pierre, vous allez être embêté, non, avec,
non.
Ça
ne
vous dérange pas si vous décaliez.
Ça va.
Oui.
Non, on va y arriver. Voilà, donc, partant du thème du colloque international État social, propriété publique et bien commun, je vais plutôt aborder les deux premiers volets, État social, propriété publique, que bien commun, même si c'est pas complètement, c'est pas en dehors, et je vais l'aborder en l'examinant sous l'angle européen, c'est-à-dire de la construction européenne, de l'intégration européenne, de l'Union européenne. C'est ça un petit peu notre problématique. On va le faire en deux parties. Une première qui sera un résumé de choses qu'on a déjà écrites et sur lesquelles Jacques Fournier, qui va me succéder, a beaucoup écrit lui aussi sur la question de ce que je vais appeler l'européanisation des services publics, c'est-à-dire ce processus progressif qui fait que service public défini traditionnellement dans le cadre de chaque État, dans l'histoire longue, eh bien depuis 30 ans, sont maintenant un des objets de l'intégration européenne, sont en processus de co-décision entre l'Union européenne et chacun des États. Co-décision, co-compétence en la matière. Et je vais résumer rapidement ce que j'ai appelé, dans le titre de la communication, une conception européenne des services d'intérêt général en émergence, hein, parce que les choses sont loin d'être figées. On en a eu encore, il y a très peu de temps, l'exemple, la caricature. Et ça, c'est le premier volet. Le second, c'est de dire, mais dans ce processus historique de long terme, hein, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne n'est pas allée jusqu'à définir un statut d'entreprise publique européenne. Et pourtant, si l'Union européenne se construit progressivement comme acteur politique, pour employer une formule large, pourquoi ne se poserait-elle pas la question d'avoir parmi ses outils d'action, d'intervention, un outil d'entreprise publique européenne, comme chacun des États fondateurs en a eu dans sa propre histoire. L'entreprise publique, on en a eu en France, mais ça n'a jamais été une spécificité française par rapport aux autres pays européens. Tous les pays européens en ont eu, plus ou moins développés, plus ou moins marqués, plus ou moins conceptualisés dans leur histoire nationale. Donc, première partie, je vais rapidement. L'histoire de la lente émergence d'une conception européenne des services d'intérêt général, je pars traité de Rome 57, on pourrait partir avant, mais enfin, c'est ça le marché commun. Au départ, ce qu'on peut qualifier de quasi-ignorance des services publics par le traité de Rome. On l'évoque juste à deux reprises, mais ce n'est pas le cœur du traité de Rome. Le traité de Rome, on construit un marché commun, avant tout des marchandises et les services publics. Il y a un consensus qui existe pendant 30 ans. Chaque État continue à les définir, les organiser et les financer selon ses traditions nationales. 86, ça change. L'acte unique enclenche un processus d'européanisation, c'est-à-dire donne compétence, co-compétence à la communauté européenne pour, avec les États, essayer de... Et quelle est la démarche de l'acte unique ? Marché unique, marché intérieur, éliminer les obstacles aux échanges, quatre grandes libertés de circulation, s'engage un processus de libéralisation progressive des services publics qui, dans tous les pays européens, avec de grandes différences d'organisation, de conception, mais sont quand même assis sur des monopoles nationaux, régionaux ou locaux. Liberté de circulation et monopole, on voit l'antagonisme. Et donc, l'Union européenne engage un processus de libéralisation d'introduction de la concurrence, sans définir en même temps une conception politique des services publics ou des services d'intérêt général. Déséquilibre initial de l'acte unique. On parlait tout à l'heure de Rocard, on peut parler maintenant de Delors, puisque c'est quand même un peu la même famille politique, mais c'est Delors, l'acte unique, le livre blanc de l'époque. Et donc je fais le lien avec ce qui s'est dit dans la séance précédente. Processus de libéralisation qui va amener des polarisations croissantes. Enfin, je ne développe pas, j'ai écrit sur le sujet, Jacques Delors aussi, je résume rapidement. Et depuis 30 ans, l'acte unique. Jacques Fournier, excusez-moi. Bon, ne pas confondre, Jacques Fournier. Et depuis 30 ans, est engagé, avec l'intervention d'acteurs sociaux, de toute une série, y compris le rôle du Parlement européen, un processus de rééquilibrage progressiste. C'est-à-dire, il peut y avoir des formes de libéralisation. Le tout État n'est pas forcément l'idéal. Il peut y avoir des aspects de marché, mais en même temps, il doit y avoir une conception commune. Et je renvoie là au traité d'Amsterdam, 97, à la Charte des droits fondamentaux, et puis au traité de Lisbonne, qui fait qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait un équilibre, en plus c'est instable, mais qu'il y a ce qu'on a appelé un acquis européen. Aujourd'hui, que je vais résumer ici en 10 points, sur la grande marge de manœuvre, le grand large pouvoir discrétionnaire des États membres, et quand on dit les États, c'est aussi les collectivités territoriales, pour définir, organiser, financer les services d'intérêt général. Les institutions européennes pourraient avoir, mais c'est important que je le dise là, parce qu'on va en parler juste après, pourraient avoir la même compétence pour des services européens d'intérêt général, même si jusqu'à présent, ça ne s'est pas juridiquement fait. Pour les services non économiques, aucune obligation d'appliquer les règles de marché et de concurrence. Chaque État reste compétent, mais les services économiques ne sont pas listés, définis dans les traités. Pour les services économiques, eh bien, les autorités publiques doivent clairement définir quelle est leur mission, leur finalité, leur but, leurs objectifs. Il n'y a plus de définition, est un service public comme par nature. Non, c'est quelles sont leurs missions particulières. Et sur cette base, les autorités publiques peuvent définir des moyens adaptés, y compris des situations de monopole, des droits exclusifs et spéciaux. Ce n'est pas interdit par le traité, à condition que ce soit justifié par les missions et proportionné aux missions. Transparence, proportionnalité, deux principes fondamentaux de la construction européenne. Les États membres ont le libre choix des modes de gestion, la gestion interne, ce qu'on en français européen on appelle in-house, hein, pour parler vite, ou la gestion déléguée soit à des entreprises privées, on le connaît bien en France avec les délégations de services publics, soit à des associations économie sociale et coopérative, ça renvoie à la catégorie dont on parlait jusqu'avant. Liberté de choix des modes de gestion par les États, par les collectivités territoriales. Six valeurs communes qui sont intégrées depuis le traité de Lisbonne et auxquelles doivent faire référence tous les États, toutes les autorités, tous les services publics partout en Europe maintenant: qualité, sécurité, caractère abordable, égalité de traitement, on retrouve le vieux principe cher à la France d'égalité, mais égalité de traitement, promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs. Règles, enfin principes communs maintenant au plan européen. Des règles de concurrence et du marché intérieur s'appliquent, mais ne s'appliquent que dans les limites où ça ne fait pas obstacle à la mission particulière impartie à ces services. Donc, il faut trouver quel rapport entre règles de concurrence et de marché et des missions particulières. C'est du cas par cas que cette conception donne la liberté aux États membres. Choix du mode de propriété des entreprises. L'Union européenne n'impose pas juridiquement par le traité de privatiser. Ça, c'est ce qui souvent est dit. C'est bien de la responsabilité des États de privatiser ou pas. Ça, il faut être très clair là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a un contexte qui amène un vent général de libéralisation et de privatisation, et il peut y avoir simplement des principes d'abus, d'erreurs manifestes que la Commission européenne peut invoquer si un État abusait de ces définitions. Alors, acquis, mais en même temps, tension et incertitude. Ce n'est pas figé, ce n'est pas acquis à tout jamais. On le voit bien, l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose de stable. Ce n'est pas un État, je vais l'aborder jusqu'après, qui aurait des règles intangibles. Non, c'est... Et ce petit graphique, ce petit schéma, pour montrer les tensions qui, au sein desquelles, les contradictions au sein desquelles sont les services publics. D'un côté, vous avez, premier pôle, ce qu'on appelle les obligations de services publics, c'est-à-dire le droit d'accès de chaque habitant, solidarité, préparation du long terme, politique publique, sur un pôle, avec sur le pôle opposé, les règles de marché, de liberté de circulation et de concurrence. On voit bien la tension qu'il y a, elle est historique, elle est générale, entre ces deux pôles. Mais il n'y a pas que deux pôles dans l'avenir des services publics au plan européen. Il y a deux autres pôles qui jouent leur rôle. Le principe de subsidiarité, principe inhérent à ce qu'est la construction européenne, c'est-à-dire de compétences partagées entre l'Union et les États membres. L'Union européenne ne décide pas de tout. Les compétences sont partagées. On est dans des domaines de la gouvernance multiniveau, de la co-responsabilité entre l'Union et les États membres, selon les sujets, selon les domaines. Et c'est en tension avec le marché, qui, lui, a priori, ne connaît pas de frontières. Les logiques de marché ne connaissent pas de frontières. Mais c'est aussi en tension avec les obligations de service public et dictées à quel niveau, dans quel contexte. Et puis, quatrième pôle, c'est la politique européenne de cohésion économique, sociale, territoriale, on pourrait dire environnementale, qui fait que l'Union européenne, c'est la deuxième politique européenne dans l'histoire et quantitativement parlant dans son budget, a, depuis les processus d'élargissement successifs, mis en œuvre des politiques, des fonds structurels et ainsi de suite, pour essayer que les États moins développés, entre guillemets, comment on le mesure, mais enfin bref, rattrape le peloton initial et engage un processus de cohésion et de convergence. Donc, des phénomènes qui font parler d'acquis européens et en même temps des tensions qui font qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait demain. Ça, c'est le premier volet que je rappelle rapidement ici pour en venir au deuxième partie. L'Union européenne a-t-elle besoin de l'outil entreprise publique. Jusqu'à présent, donc, les prémices d'une conception européenne des services publics, mais l'Union européenne ne s'est pas posé la question d'un statut d'entreprise publique, ne s'est pas posé la question d'entreprise publique comme un des outils nécessaires pour l'intégration européenne de demain. Et à partir de là, je vais aborder quatre points. Premièrement, l'Union européenne n'est pas un État au sens traditionnel, ce qu'on connaît depuis un siècle et demi, en particulier en Europe occidentale. Deuxièmement, n'existe pas de statut d'entreprise publique européenne, mais il existe un statut de société européenne, d'entreprise privée. C'est récent, c'est encore peu développé, mais ça existe. Troisièmement, il existe de facto des entreprises publiques européennes, et en particulier une qu'on a étudiée, Galileo, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, quatrièmement, si l'Europe continue à se construire comme construction politique, un jour ou l'autre, elle sera amenée à construire un concept et une conception juridique de services publics, d'entreprises publiques européennes. Premièrement, l'Union européenne n'est pas un État au sens traditionnel et classique du terme. C'est une construction politique progressive, reposant sur deux légitimités complémentaires. Celle des États membres, c'est les États qui ont signé des traités pour faire des choses ensemble, et puis une deuxième légitimité, une communautarisation progressive sur la base de négociations, de compromis, de consensus, et dans lequel le Parlement européen joue un rôle croissant. Mais le Parlement européen, et donc de ce point de vue-là, oui, il y a complémentarité, toujours dans tout ce qui s'est fait depuis 50 ans, entre les intérêts nationaux de chacun des États, tel que chacun le définit, et un intérêt communautaire. On fait ensemble ce qui correspond à l'intérêt commun et dans lequel chacun s'y retrouve. J'ai dit le rôle du Parlement européen qui fonctionne avec trois logiques de fonctionnement spécifiques qui ne sont pas celles d'un Parlement national. Le Parlement national fonctionne pour l'essentiel selon les logiques droite-gauche. Alors, cette logique-là existe dans le Parlement européen, mais il existe deux autres logiques qui coexistent avec la première dans le Parlement européen. Logique nationale, les représentants de chaque État se réunissent entre eux et souvent votent la même chose, qu'ils soient de droite ou de gauche, entre guillemets. Et puis, troisième logique, une logique communautaire, c'est-à-dire essayer de construire des règles communes correspondant de participer à cette construction-là. Et donc, le Parlement européen fonctionne bien davantage sur le principe du consensus et du consensus entre les grands groupes, hein, et non pas la logique droite-gauche, que sur la logique droite-gauche qu'on connaît. Trois méthodes spécifiques européennes. La méthode communautaire, la Commission propose, le Parlement et le Conseil co-décident et co-adoptent les règles et les mesures législatives. La logique intergouvernementale, le Conseil européen représentant les chefs d'État et de gouvernement. Conseil des ministres, c'est de l'intergouvernemental. On essaye de se mettre d'accord, compromis, consensus entre les États. On a eu encore une réunion du Conseil européen hier soir. Et puis ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination, c'est-à-dire dans laquelle les acteurs se réunissent et essayent d'élaborer des règles communes issues de leurs pratiques, issues de leurs habitudes, qui n'ont pas de caractère imposé, juridique imposé, mais c'est quelque chose, bon, pour parler au monde universitaire, le LMD n'est pas une obligation européenne, mais c'est issu de cette méthode particulière où les universitaires se sont mis ensemble en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la liberté de circulation à l'échelle européenne. C'est bien ça, la finalité. Particularité toujours de cette Europe qui n'est pas un État, on peut considérer qu'il existe 5 présidents dans l'Union européenne. Impensable dans le cadre d'un État traditionnel. 5 présidents, le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, qui a été chargé hier soir d'essayer de trouver un accord entre les États, le Parlement européen, pour, à la suite des élections de dimanche dernier. Le président de la Commission européenne, qui joue un rôle clé, bon, on a tous en mémoire M. Barroso. Le président du Conseil de chacun des conseils des ministres, qui change tous les 6 mois. On va avoir le 1er juillet la présidence italienne, après avoir eu la présidence grecque ces 6 derniers mois. La vice-présidente en charge des affaires européennes et de sécurité, des affaires extérieures et de sécurité, Madame Ashton, qui a un rôle clé dans le domaine international, on l'a vu essayer de bouger un peu au moment de l'affaire ukrainienne, et puis le président du Parlement européen, qui joue quand même dans cette affaire, lui aussi un rôle. 5 présidents, impensables, dans un... Bon, mais c'est ça qui est la résultante des logiques et des histoires différentes. Une compétence exclusive de l'Union européenne dans très peu de domaines. Ce sont bien sûr la monnaie unique pour ce qui concerne les 18 États membres. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est quand même qu'un domaine. Il n'y a pas de politique économique commune, il n'y a pas de fiscalité commune, il n'y a pas de compétence réelle communautaire. Compétence en matière de droit de la concurrence, puisque là, il faut qu'il y ait des règles communes pour régir les échanges entre les États membres. Mais enfin, peu de compétences exclusives de l'Union. Compétences, si, exclusives pour négocier les accords commerciaux avec les autres, avec l'extérieur. Et on trouve le traité transatlantique qui est dans le cœur de l'actualité, lui aussi, où là, il y a compétences exclusives des institutions européennes pour négocier avec les pays tiers. Et puis, les enjeux démocratiques avec qu'est-ce que la démocratie pour une Union européenne telle qu'elle est, pour 500 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut plaquer la démocratie représentative traditionnelle ? À ce niveau-là, ben, on le voit bien, les élections du Parlement européen sont tout autant des élections nationales qu'européenne, enfin, même sans doute plus des élections nationales quand on voit les différences qu'il y a pu y avoir encore lors de ces élections. Donc là aussi, spécificité avec des tentatives de trouver des modes spécifiques à la construction européenne, la comitologie, le lobbying, on pourra en parler, l'initiative citoyenne, et ainsi de suite. Je passe au statut de société européenne pour ne pas être trop long. Société européenne, entité de droit privé qui existe dans les textes européens depuis 2001. C'est récent. 57-2001, et le temps où on a engagé le processus de marché commun, tout en ayant des statuts différents d'entreprise dans chacun des États. Donc, il a fallu énormément de temps pour essayer de construire un statut, 30 ans de négociation au sein du Conseil. Société de droit européen soumise aux mêmes règles, c'est-à-dire qu'une grande entreprise européenne ayant des filiales dans plusieurs pays peut être soumise pour toutes ses filiales aux mêmes règles et non plus aux législations de chaque État membre dans lequel ils ont une filiale. Elle peut être constituée pour permettre à des sociétés d'États membres différentes de fusionner ou de créer un holding pour donner la possibilité de créer des filiales communes. Mais 2001, on est 13 ans après, très peu encore de sociétés européennes de droit privé, environ 1800. Enfin, ça reste marginal dans les habitudes, les traditions. Et on dit, Alstom, c'est une entreprise française. Entreprise européenne, enfin bon, et ainsi de suite. Enfin bon. Et on continue à raisonner avec le droit de chacun des États-nations. On voit ce qu'est l'Union européenne, c'est pas. Pour autant, et sans qu'il y ait eu jusqu'à présent de statut spécifique, il existe, et c'est ce qu'on a voulu essayer d'aborder, des entreprises publiques européennes de facto, non pas des jurés, mais de facto. Et on a pris l'exemple de Galileo. Alors, je parle très rapidement. C'est quoi Galileo ? C'est un projet de la construction, enfin, des institutions européennes portées par des enjeux stratégiques internationaux d'avoir un système concurrent du GPS américain. Que l'Europe ne soit pas dépendante pour le contrôle des déplacements à l'échelle mondiale des sources américaines, de la NSA et de compagnie, avoir son propre système. Enjeu stratégique dont on voit bien l'évidence, enfin l'importance. Et donc avoir un réseau de satellites européens. Bon. Le projet initial était de dire, philosophie générale, pour construire ce réseau et cette entreprise commune, on va faire un PPP, partenariat public-privé, et on va demander à des investisseurs privés d'investir dans ce projet. Et on va faire un partenariat public-privé. Vous voyez l'enjeu de c'est du moyen et du long terme de constituer cet objectif-là. Il ne s'est pas trouvé d'investisseurs privés voulant participer au projet. Ils ont cherché pas d'investisseurs privés. Et donc, intérêt général européen stratégique, il faut le faire. Eh bien, l'Union européenne s'est résolue à le faire avec des fonds 100% publics. 100% publics. Et avec des missions dans cette société qui sont, en la matière, des missions très, très particulières, très spécifiques, puisqu'il y a à la fois des missions qu'on pourrait qualifier régaliennes de sécurité, au sens plus étroit du terme, de type régalien, des activités de marchandes, commerciales, puisque Galileo va vendre des services aux acteurs économiques, des activités que l'Europe appelle, de ce terme joli, de services publics régulés, tiens, on retrouve services publics dans les textes européens, et puis des activités aussi de recherche, de sauvegarde du système, enfin bon. Et donc, des missions aussi larges que peuvent avoir dans chacun des États des entreprises publiques, encore une fois, sans avoir le statut d'entreprise publique européenne. C'est ce qui nous fait parler d'entreprise publique de facto parce qu'il ne s'est pas trouvé d'investisseur privé pour participer à ce projet considéré comme étant d'intérêt commun d'intérêt stratégique par les États de l'Union européenne. Ce qui nous amène, et conclure là-dessus dans le respect du temps qui était imparti, à dire, ben, finalement, ce statut d'entreprise publique européenne viendra sans doute un jour. Bon, et je finis tout à la fin pour dire le plus tôt sera le mieux. Bon, en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas avoir une branche spécifique du droit de l'Union européenne consacrée à l'émergence d'une entreprise publique européenne? Alors, tout de suite, un obstacle, l'article 106.1, pardon, l'article 106.2 qui est consacré au service public, l'article 106.1 du traité qui est consacré aux entreprises publiques et qui dit qu'elle ne doit pas avoir de règles particulières. En deux mots, il peut exister des entreprises publiques puisque chaque État le décide, mais à condition qu'elles soient pareilles qu'une entreprise privée. Donc, vous pouvez avoir des entreprises publiques en Europe, mais pour l'essentiel, elles doivent respecter les mêmes règles, les mêmes contraintes et ne pas être favorisées dans la concurrence par rapport à leur concurrence privée. Les entreprises n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité. Aucune mesure contraire, on ne sait pas. Bon. Sauf que, et donc on peut dire, ah ben, comment créer une entreprise publique et un statut d'entreprise publique européenne si le traité l'empêche? Sauf que le traité, si on le lit bien, il concerne la liberté de circulation entre États. Il s'adresse, cet article 106.1, aux États, pas à l'Union. Si l'Union décidait de le faire, elle pourrait le faire. Et d'ailleurs, la Commission européenne, quand elle a réfléchi il y a 3 ans sur les évolutions de Galileo, elle s'est posé la question, ne faudrait-il pas créer un statut d'entreprise publique européenne? Elle a dit, oh ben, ça prendrait trop de temps, procédure législative toujours longue, pour répondre aux besoins immédiats qu'on a pour Galileo. Mais ce n'est pas une question absurde, puisque même la Commission européenne, dont on ne connaît pas ses a priori favorables aux entreprises publiques, loin s'en faut, s'est posé la question, ne faut-il pas? Et donc, ben, la question qu'on a voulu essayer d'aborder, c'est ne faut-il pas aller dans ce sens-là, comme un outil de l'Union européenne en construction, en évolution de cette construction politique, comme complétant ses règles juridiques, ses règles, ses politiques communes, ainsi de suite, comme avoir un outil d'intervention dans les sociétés. Voilà un petit peu la question qu'on a voulu aborder. Entreprise publique, pour revenir au thème, État social, propriété publique, et donc, faudrait-il sans doute définir des biens communs au plan européen? Bon. Comment? Bon, là encore, c'est un peu la question que je posais hier. Voilà.
Merci beaucoup.